innovation.
De l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation.
On a beaucoup d'innovation.
L'innovation. L'innovation radicale.
Pépite, c'est le podcast du MTI qui vous parle innovation et technologie d'aujourd'hui.
Bonjour à tous et bienvenue pour le 4e épisode de la nouvelle saison de Pépite, le podcast du Master MTI. Pendant cette saison, on va rencontrer des entrepreneurs, des artistes ou des innovateurs autour de différents sujets comme la créativité, la transition écologique, l'industrie et bien d'autres. Je m'appelle Edouard, je suis accompagné de Normand et nous recevons aujourd'hui une pépite française, Thomas Huriez, fondateur de la start-up industrielle 1083 qui démocratise ou plutôt redémocratise le jean fabriqué en France. Sa croisade montrait que oui, il est possible de rentabiliser une activité industrielle en France sans passer par les usines du bout du monde et émettre des tonnes de gaz à effet de serre. Il est possible de consommer moins en consommant mieux, c'est-à-dire français, en redynamisant l'activité des territoires et l'économie française, qui a touché, je le rappelle, un record de déficit commercial de 164 milliards en 2022. Donc, en effet, grâce à son entreprise et à la relocalisation progressive de toutes les étapes de fabrication du jean en France, 1083 a déjà créé 250 emplois en 10 ans d'existence. Donc dans cet épisode, on va parler de mode éthique, du bon sens d'acheter français et de l'impact de cet achat sur l'économie, l'écologie et l'impact social également. Et aussi, on va parler de l'importance de la réindustrialisation sous une forme durable et vertueuse que peut être la perma-industrie. Pour commencer, Thomas, merci d'être ici avec nous. Avant de parler de ton aventure chez 1083, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, qui tu es et d'où t'es venu l'idée de ton entreprise, l'idée folle de se lancer dans l'industrie, la création d'usines et d'emplois en France?
Ok, ben bonjour à vous deux, bonjour à toutes et tous. Déjà, merci de votre accueil. Ben moi, je m'appelle Thomas Huriez, j'ai 41 ans, bientôt 42. À la base, je suis informaticien, donc j'ai fait un bac STI électrotechnique qui a précédé un DUT télécom et réseau, qui a lui-même précédé une licence de management. Parce que je voulais m'éloigner de l'informatique, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance de licence, c'était l'école dans laquelle j'étais en licence. Et en fait, le responsable informatique de cette école s'est fait licencier au moment même où j'étais dans l'école, en alternance. Et donc, le directeur de l'école m'a proposé de devenir responsable informatique dans l'école dans laquelle j'étais encore étudiant. Donc, c'était un peu bizarre. Mais j'ai du coup replongé malgré moi dans l'informatique. J'y suis resté pendant 4-5 ans. Comme responsable informatique. Mais voilà, l'ennui de l'informatique m'a à nouveau gagné. On bosse tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Et moi, ce temps-là, je ne peux pas décemment le consacrer à autre chose que des choses qui font sens pour moi ou qui me plaisent. On bosse trop dans sa vie pour s'emmerder au boulot, pour faire des choses auxquelles on ne croit pas. C'est trop dommage, en fait, de gâcher ce temps-là par des choses qui ne font pas sens. Et donc, moi, de Grenoble, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études et où j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai voulu habiter dans la Drôme, à Romans, puisqu'à Romans, ont habité toute leur vie mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, et dans la maison de mes grands-parents est née ma mère, évidemment. Et donc, cette maison familiale où on allait tous les week-ends, j'y tenais beaucoup. Et du coup, j'ai toujours voulu y vivre. Donc en 2007, quand j'ai voulu quitter l'informatique, j'ai voulu aussi quitter Grenoble, m'installer à Romans et développer une activité hors de l'informatique, puisque du coup, je voulais quitter ce domaine-là. Et en fait, cette maison de famille, elle est en face d'un centre de magasins d'usine qui s'appelle Marc Avenue, qui vend du déstockage de marques du bout du monde. Et moi, je me suis dit, je cherche du sens. Il y a cette maison en face de Marc Avenue dont on ne fait rien. Donc je me suis dit, pourquoi pas, par opportunité, y ouvrir un magasin de vêtements bio équitable. J'y connais rien à la mode, j'y connais rien au commerce, j'y connais rien à l'entrepreneuriat, mais ça fait sens. À l'époque, ma grand-mère était encore en vie, donc du coup, j'ai pu vivre un petit peu à son crochet, ce qui m'a donné le temps d'apprendre. Et donc, voilà comment en 2007, j'ouvre une boutique de vêtements bio équitable, avec à l'époque une vision très rationnelle, beaucoup trop rationnelle de la mode, où je trouvais ça très superficiel, très image, très marketing. Et donc, je me disais, quel gâchis. Pourquoi tant d'argent, tant d'énergie pour un truc si superficiel? Et puis, il m'a fallu quelques années pour comprendre le sens de la mode et voir qu'en réalité, la mode était un vecteur de soi-même incontournable. Quand on était tous tout nus, qu'on vivait dans des grottes, on n'avait pas besoin physiologiquement de s'habiller. On était poilus, on était protégés du froid par notre propre corps. Nos pieds étaient capables de marcher sans chaussures. Toutes des choses qu'on ne sait plus trop faire aujourd'hui parce qu'on s'est habitué au confort et le confort, quelque part, nous a affaiblis ou nous a modelés. Et quand on s'intéresse aux plus vieilles chaussures qu'on retrouve, on s'aperçoit que ces chaussures ne sont pas des chaussures utilitaires, ce sont des chaussures d'apparat. Parce que quand on était donc tous physiologiquement autonomes, comme le sont les animaux, mais qu'on était déjà des êtres humains, on avait ce besoin identitaire de parler de soi, même si on n'avait pas besoin de physiologique, de se protéger du froid, du chaud ou des contacts. Et je me suis aperçu que les premiers vêtements, les premières chaussures, c'était des vêtements identitaires et pas des vêtements de protection. Donc même si on était poilu, on s'habillait de tentures, de tatouages, de bijoux, de parures. Et tout ça m'a fait comprendre qu'en fait, le besoin profond, primitif, auquel répond la mode, c'est un besoin identitaire. Donc en fait, ça ne sert à rien de s'émouvoir des problèmes d'image, de superficiel, etc. C'est un jugement caduque, puisqu'en fait, c'est ça le besoin primitif, avant même de se protéger du froid, du chaud, etc. Et donc, du mépris un peu de la mode, je suis passé à la vénération pour la mode, tellement j'ai vu en la mode un levier super fort pour partager mes idées. Et ces idées, donc, c'est tout simplement de respecter les gens, respecter l'environnement, enfin du bon sens, ce qu'on fait quasiment tous autour de soi. L'humanité est bonne. Enfin, je veux dire, quand on est en situation de responsabilité, on fait des choses vertueuses. Si vous avez un jardin chez vous ou des parents qui ont un jardin, il y a 9 chances sur 10 qu'ils ne mettent pas des pesticides sur les carottes qui vont vous donner à manger le week-end quand vous rentrez chez vous. Donc en fait, vos parents, dès qu'ils sont en responsabilité, en fait, ils sont écolos. Et vos parents, ils vous ont mis à l'école, ils vous ont pas mis au travail. Donc en fait, le respect des gens, le respect de l'environnement, à partir du moment où on est en responsabilité d'un sujet, 99% des gens sont vertueux. Donc le sujet, c'est pas de savoir si l'homme est bon ou pas bon. Le sujet de savoir, c'est comment on met les gens en responsabilité. Parce qu'en fait, ce respect de l'environnement que l'on a quand on fait planter des carottes dans son jardin, on ne l'a pas quand il s'agit du coton, d'un vêtement qu'on porte, parce que c'est trop loin de nous. Donc en fait, ce n'est pas qu'on est irresponsable, c'est qu'on est irresponsable. On n'est pas en mesure d'être responsable, on est déresponsabilisé, tellement les chaînes de valeur sont complexes, lointaines, et ça nous désengage, ça nous déresponsabilise, et ça nous fait faire des choix plus ou moins en conscience, mauvais, vicieux, délétères. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ce magasin, il est trop cool, je m'éclate dans le fond. Par contre, je vois bien que mes cousins, quand ils viennent, ils n'achètent pas grand-chose, ils sont contents de me voir, mais en fait, les vêtements, le bonnet péruvien, c'est loin d'eux, parce qu'en fait, ce n'est pas leur identité. Et donc, quand ces fournisseurs de marques éthiques ont fermé, parce qu'en fait, leur offre était trop fermée dans la forme et pas assez désirable, eh bien, je me suis dit, le problème, ce n'est pas le fond, le problème, c'est la forme. Et je vais essayer de mettre toutes ces idées qui plaisent à tous, finalement. Encore une fois, personne n'est pour les pesticides et personne n'est pour le travail des enfants. Je vais mettre toutes ces idées dans un vêtement populaire. Et donc, c'est là où je me suis intéressé au jean. Et donc, 4-5 ans après l'ouverture de mon magasin, après avoir essuyé les plâtres de l'entrepreneuriat, du commerce que je découvrais à l'époque, j'ai décidé de créer ma propre marque. Et donc, de lancer 1083, une marque de jean, made in France, pour parler de proximité. Et donc, même si la marque 1083 aura 10 ans le 25 mars 2023, et donc elle est née le 25 mars 2013 officiellement avec notre campagne de financement participatif, en réalité, l'entreprise date d'octobre 2007, donc l'entreprise a 15 ans et demi.
D'accord.
Et alors du coup, pourquoi 1083 ? Qu'est-ce que c'est que ce nom ?
Alors, quand je parlais de responsabilité tout à l'heure, je parlais de proximité. Et en fait, ce monde qui va dans le mur, là, tel qu'il est, on le sait, et pourtant, on a du mal à l'accepter collectivement. On a mis 40 ans à accepter que d'être, nous tous et toutes, la cause du réchauffement climatique. Ça a mis 40 ans pour se mettre d'accord là-dessus. Et pourtant on sait, les scientifiques l'ont dit, rationnellement on le sait, de la même manière que peut-être que parmi vous certaines ou certains d'entre vous fument et vous savez que ça tue, c'est écrit en gros sur le paquet. Donc en fait, rationnellement, il n'y a pas de raison de s'auto-tuer en quelque sorte, donc il n'y a pas de raison de fumer, mais comme les conséquences de cette cigarette sont lointaines, en fait c'est pas grave. Si fumer tuait en 30 jours, on ne fumerait pas. Si fumer en 30 ans tue, eh ben on fume. Donc pendant 29 ans et 11 mois, vous allez fumer, en sachant, c'est écrit sous votre nez que fumer tue, mais c'est l'émotion de le vivre, c'est quand le cancérologue vous dira à 50 ans, mon gars, faut que t'arrêtes de fumer, sinon dans 30 jours t'es mort, que là, l'émotion, le choc, va vous faire réagir, va vous faire arrêter de fumer, alors même que ça fait 29 ans et 11 mois que vous savez que c'est pas bien. Tout le monde le dit, tout le monde le pense, etc. Et donc, je trouve que la proximité, dans le temps, est un levier d'engagement hyper impactant. Ça nous rend responsables. En fait, ça nous positionne en responsabilité. Idem la proximité en kilomètres. Il y a 10 ans, il y a un immeuble au Bangladesh qui s'est effondré, le Rana Plaza, avec des milliers de morts, avec pas mal de vêtements qui étaient fabriqués pour des marques françaises. Ces marques-là, d'ailleurs, ne savaient pour certaines même pas qu'elles fabriquaient dans cet immeuble-là, parce que de sous-traitant en sous-traitant, on n'a pas de traçabilité précise, parce que c'est loin. Cette chute de cet immeuble et ses morts nous ont touchés quand on l'a vu à la télé. Et puis on a zappé, et puis on est passé notre actu, et puis après c'était fini en fait, on n'était plus touchés longtemps. Cet immeuble, si c'était l'immeuble de Dauphine qui s'est effondré sur un bout de bâtiment et qui aurait tué 2000 élèves, bah en fait on serait tous encore retournés de cette émotion, vous auriez perdu des potes dans ce drame, il y aurait un énorme espace de recueillement tellement ça nous aurait touché, parce que c'est proche en kilomètres et proche émotionnellement, il y a peut-être des amis parmi vous qui auraient été blessés, etc. Donc la proximité, ça touche en fait. Pareil en nombre d'intermédiaires, quand on est loin les uns des autres, avec plein d'intermédiaires, on se comprend moins bien que quand on est face à face et qu'on se parle. Le téléphone arable est moins précis que se parler bune à bune, quoi. Et puis la quatrième des proximités, c'est la proximité de compréhension. D'ailleurs, c'est une de vos responsabilités, c'est la plus grosse de vos responsabilités pour demain, vous toutes et tous, c'est qu'en fait, le monde tel qu'il est devient de plus en plus compliqué. Et quand les choses sont compliquées, est-ce que ça vous rapproche d'elle ou est-ce que ça vous éloigne d'elle? Évidemment que ça vous éloigne. Et donc on voit un monde où les gens sont déresponsabilisés de leur consommation, ne votent plus, pas du tout. Je crois pas du tout que c'est parce qu'ils sont tous pourris, parce qu'ils mentent, etc. Ça a toujours été, ça changera jamais. C'est la politique, c'est des sujets de fond, mais nourris par le camelotage. Parce qu'en fait, avant de d'être élu, il faut mener une campagne. Et donc, c'est un concours de communication. Donc, en fait, il y a forcément des jeux comme ça de séduction. Donc, ça sera toujours donc ça peut pas être le problème. Le problème, c'est que le monde est tellement compliqué. Comment voulez-vous que votre cousine, votre grand-mère, votre tante, dans toute sa diversité, sache faire un choix entre un système A qui nous est proposé et un système B qui nous est proposé par monsieur A et monsieur B, sans comprendre toute la complexité du monde, avec des enjeux économiques, géopolitiques, tout ça à l'échelle de l'Europe, du pays, de la région, du département, de l'agglo et de la ville, enfin, c'est imbitable ce truc-là. Donc en fait, notre devoir de proximité en tant que dirigeant de société, en tant que responsable, en tant que politique, c'est de construire un monde simple. Si on construit un monde compliqué, eh ben, en fait, on va désengager les gens, donc on va affaiblir le pouvoir citoyen et on va affaiblir les démocraties. Donc on doit faire des choses simples. Et donc moi, c'est gorgé de tout le potentiel de la proximité, que je me suis dit, si je crée un vecteur de transition, faut que les idées coulent, tout le monde les partage, encore une fois, avec les carottes dans son jardin et ses enfants, tout le monde est pour ça. Il faut un produit cool, donc on arrête le bonnet péruvien, on va faire des jeans, tout le monde les porte, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, les catholiques, les musulmans, les gens de gauche, les gens de droite, tout le monde porte des jeans, donc ça c'est trop cool, c'est fédérateur. Et on va engager les gens, donc se rapprocher le plus possible d'eux, dans le temps, en leur montrant les conséquences immédiates de leur achat, en proximité, en fabriquant près d'eux, sans intermédiaire, et en essayant d'être le plus simple possible pour leur expliquer, leur partager tout ce que l'on vit, qui est très très riche parce que c'est très engagé, et donc on va essayer de le rendre le plus digeste, le plus pédagogique, le plus désirable possible, pour que ce soit à la portée du plus grand nombre. Et donc c'était le pari de 2013, beaucoup moins théorisé qu'aujourd'hui, puisque du coup, avec le recul, on s'aperçoit, on post-théorise des choses qu'on a fait spontanément ou juste par cohérence. Et cette aventure a démarré il y a 10 ans. On était deux avec mon petit frère, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et 10 ans plus tard, on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 105 dans l'entreprise, plus 150 emplois indirects. Et donc, ce 1083, pour répondre à ta question, parce que je suis très long, c'est la distance entre les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Donc, c'est Menton au sud-est et Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez dans l'Hexagone.
Excellent. Alors, j'ai cru apercevoir que, effectivement, vous avez un attrait pour la symbolique. Vous avez levé 1,083 million en financement participatif en 2020. Quelle est votre vision de la symbolique? Est-ce que vous pensez que c'est justement ces choses-là qui permettent de ramener de l'émotion dans l'achat des Français?
En fait, on croit tous qu'on est des êtres rationnels, mais en vrai, 90% de nos décisions sont des décisions émotionnelles, irrationnelles. Et quand on en vient à la raison, c'est qu'on a suivi tout un cursus d'émotions qui nous amène, qui nous accélère vers la raison. Donc c'est bien de dire aux gens « fumez, ça tue », c'est bien de dire aux gens « roule pas trop vite », c'est bien de dire aux enfants « mange pas de bonbons », etc. Mais il n'y a rien de mieux que d'avoir mal au ventre pour arrêter de manger trop de bonbons. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un petit accident pour dire « merde, je roulais trop vite ». Et il n'y a rien de mieux qu'un médecin qui vous dit « attention, tu vas avoir le cancer » pour t'arrêter de fumer. Donc en fait, c'est malheureux, mais c'est humain, ça ne changera jamais. Donc autant en tenir compte et se dire « ben oui, on va miser à 10% sur la raison, mais on va miser à 90% sur les émotions pour accélérer le temps ». Et la proximité, je trouve, est le levier universel le plus puissant pour procurer des émotions. Donc, pour changer le monde avec tout le monde, puisqu'en fait, si on s'en tient à ce qui est raisonnable, on n'aura pas tout le monde, c'est trop compliqué. Et donc, c'est pour ça que moi, je crois à cette démarche-là de proximité à tout point de vue pour engager les gens et leur donner envie du monde de demain plutôt que leur dire juste « continuez comme ça, tu ». Et donc la symbolique, c'est un des leviers de la proximité. On avait besoin de financement pour notre besoin en fonds de roulement. Donc il y a 3 ans, on a fait une campagne de financement participatif d'obligation pour investir de l'argent chez 1083, cet argent qu'on rembourse sur 5 ans à nos clients. Donc c'est trop bien de les associer à la dynamique collective et au projet de filière qu'on porte. Et donc on avait besoin 1 million. Et là, on s'est dit, on demande 1 million 83 000 euros. Et évidemment qu'on dit 1 million 83 000 euros. Parce qu'en fait, c'est fun. Et donc, ça rajoute une petite touche d'émotion, de sourire à un besoin rationnel. Et ça, c'est vraiment un enjeu transversal chez nous. C'est que chaque choix, chaque service, chaque expression, chaque achat que l'on fait doit servir la raison et doit servir la passion, l'émotion. Donc, je dis n'importe quoi. Dans ce studio, il y a une poubelle. Il doit y en avoir une quelque part. Bah, si vous venez chez 1083 et que vous m'écoutez là à la radio, machin, ou dans un podcast, et que vous dites « ah putain, c'est génial, on va acheter local, tout ça », et vous venez dans un magasin et vous voyez la même poubelle Ikea que vous avez chez vous, vous allez vous dire « Tommy Ries, il faut un peu ma gueule là, parce que du coup, ok, je vais acheter mon jean français, mais il pourrait ne pas acheter des poubelles Ikea, quoi, ça n'a pas de sens ». Donc en fait, cette poubelle Ikea va être un média dissonant de ce que porte 1083. Donc ça va être un bon contenant pour faire sa fonction de poubelle, mais ça va desservir l'émotion de la marque. Et donc nous, chaque investissement que l'on fait, on cherche à ce qu'il soit résonnant et pas dissonant avec la marque. Donc évidemment qu'on va chercher, si on trouve, un fabricant de poubelles français qu'on pourra mettre dans notre magasin. 90% des gens vont passer à côté de s'intéresser à d'où vient la poubelle. Mais pour les 10% qui vont s'intéresser à la poubelle, quand on va leur dire que même la poubelle est made in France, ils vont se dire « ah ouais, en fait ». Donc ça va les faire résonner, ça va les engager encore plus. Et donc, tout est symbolique, tout est média, tout est politique, même nos poubelles. C'est pour ça que nos machines à coudre aussi, on les peint en rouge. Un industriel, il trouve complètement con. Donc une machine à coudre, ça coûte entre 1000 euros et 90 000 euros. Pour des automates. Et la peinture, ça coûte tout le temps 1000 euros. Donc, quelque part, investir 1000 euros de plus pour la déco sur une machine à 90 000 euros, c'est un dollar. C'est 1% en gros du prix de la machine. Par contre, peindre en rouge une machine normale à 1000 euros, c'est doubler son prix. Donc là, les fabricants de machines, ils comprennent pas du tout qu'un industriel dépense 50% du prix d'une machine juste pour la repeindre. Sauf que si on la repeint, au lieu d'avoir juste une machine à coudre qui produit, on a une machine à coudre qui produit plus, pour 1000 euros de plus, qui communique. Parce que quand on visite l'atelier, on voit une belle machine à coudre rouge, donc on la prend en photo, on la partage sur Instagram, etc., etc. Et donc nous, on cherche tout le temps à provoquer de la résonance, par la forme, par la symbolique, par l'émotion, parce que c'est ce qui va accélérer le parcours de chacun vers la raison. Et donc, c'est ce qui fait que ce djinn, grâce à la proximité, sera, on l'espère, le plus possible, en tout cas à notre échelle, accélérateur de la transition dont on a besoin.
Je me permets d'enchaîner sur une question. Je trouve très intéressant que tu parles du fait que c'est important qu'il y ait une symbolique, qu'on ne peut pas s'arrêter à des choix pragmatiques, parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas si pragmatique et rationnel que ça. Mais je trouve qu'il y a... t'es entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat et dans le monde du business, il y a des contraintes très fortes, la rentabilité, il y a des réalités très rationnelles. Et je me pose la question, est-ce que parfois, ce n'est pas difficile de suivre à 100% la raison d'être? Est-ce qu'on n'est pas parfois tenté aussi de faire des choix rationnels et de, bah, typiquement sur la peinture des machines, de se dire, bah, en fait, en termes de rentabilité, on serait mieux de ne pas repeindre la machine à coudre?
Alors, il y a plein de manières de répondre à ta question. Déjà, un bon gestionnaire, en 1900, c'était quelqu'un qui gérait bien l'argent. Parce qu'en fait, on n'avait pas éprouvé suffisamment les limites sociales, les limites environnementales d'une gestion que économique. Et puis, au fil des ans, bon, bah, les gens qu'on martyrisait un petit peu se sont rebellés. Donc en fait, on a dit, oh là là, faut qu'on prenne soin des gens, sinon ils vont nous retourner l'usine, donc ça ne va pas servir nos intérêts. Donc, on va faire un peu mieux. Et donc, on est allé de progrès sociaux en progrès sociaux. Et donc, on s'est aperçu, je dirais à partir de... Enfin, de plus en plus au cours du XXe siècle, que bien gérer une boîte, c'était bien gérer les gens et bien gérer l'argent. Et donc, ça nous a conduit à faire des lois, des trucs qui contraignent un peu la gestion. Puisque du coup, ben, c'est emmerdant, les gens ils bossent plus 60 heures, ils bossent 35 heures. Mais c'est commun à tous, et donc ben, finalement ça nivelle, ça crée une forme de concurrence loyale, puisqu'en fait cette règle de progrès s'impose à tous, et finalement ben, il y a toujours des boulangers, il y a toujours des fabricants de vêtements, il y a toujours des fabricants de je sais pas quoi, avec des conditions qui ont évolué pour chacun d'eux, mais de manière symétrique pour les uns les autres. Du coup, ben, le business a continué avec des règles de jeu qui ont changé et qui ont demandé aux entrepreneurs de gérer mieux l'argent, enfin bien l'argent toujours, et bien gérer les gens de plus en plus. Depuis quelques années, on a une nouvelle dimension qui s'impose à tous, exactement comme l'aspect social il y a 50-100 ans, c'est l'aspect environnemental. Et donc, ben oui, pour bien gérer une boîte, en 2023, c'est pas comme en 1900, il faut bien gérer les gens, il faut bien gérer l'argent, et en plus, il faut bien gérer l'environnement. Et qui n'appréhende pas ces trois sujets-là, ben finalement, est un mauvais gestionnaire. Donc oui, c'est plus difficile, c'est des compromis, c'est des arbitrages. Le contexte est plus complexe, puisqu'il y a des dimensions en plus. Mais moi, si je ne m'intéresse pas aux gens et que je dis ben, « c'est un super projet écolo qui est rentable », eh ben en fait, je vais avoir la révolution dans ma boîte. Si je ne m'intéresse pas à l'argent, je vais avoir un projet super écolo, super social, mais qui ne va pas durer longtemps non plus. Parce qu'en fait, du coup, j'aurai pas les finances pour perdurer. Et si je m'intéresse pas à l'environnement, donc je serai rentable, j'aurai une équipe super investie, mais peut-être dans 5 ans, j'aurai plus de coton. Donc en fait, c'est bien beau d'avoir de l'argent et d'être investi, mais en fait, s'il n'y a plus la matière première, il n'y a plus la matière première. Donc en fait, c'est pas un « ou » entre les sujets. Et pour moi, le « ou », c'est les ringards qui disent le « ou » en quelque sorte. C'est-à-dire que tous ceux qui opposent bien gérer les gens, bien gérer l'argent, bien gérer l'environnement, ils font perdre du temps à leur propre activité. Il faut arrêter avec le « ou », en fait, c'est un « et », c'est plus complexe. Alors d'un côté, c'est des compromis, c'est des arbitrages, et des fois, c'est un chemin plus complexe, puisqu'il y a plus de données. Mais c'est tellement plus intéressant. Enfin, je veux dire, entre se dire « tiens, je vais développer un business super compliqué, je vais envoyer des fusées sur Saturne, je sais pas quoi, enfin, un truc super compliqué, qui est stimulant, qui est génial, qui est une aventure humaine géniale. » Et là, on valorise la complexité. Et ben moi, la complexité que je vis, bien gérer les gens, bien gérer l'argent, bien gérer l'environnement, sur un produit de grande consommation, donc craquer ça, réussir à faire sur un produit aussi populaire, aussi concurrentiel, aussi polluant, une nouvelle équation écologique, économique et sociale, ben moi, ce défi, il me stimule, mais 1000 fois plus presque que de créer une fusée qui va sur Saturne, en fait. Donc en fait, je ne vois pas du tout ça comme une contrainte, je vois ça comme un défi, un problème, à craquer, et ça m'excite en fait.
Finalement, c'est aussi une manière de dire, on réalise que l'entreprise d'aujourd'hui, enfin depuis longtemps, elle crée de la valeur pour la société qui n'est pas uniquement monétaire. mais qui est aussi social, environnemental, et des emplois, etc. Et que le but d'une entreprise, c'est de créer cette valeur. Moi, juste pour finir sur ce sujet-là, il y a une question que je me pose, c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez des actionnaires, beaucoup, qui, etc. Mais est-ce que c'est difficile de trouver des actionnaires qui ne soient pas que focalisés sur la rentabilité économique de l'argent qu'ils prêtent à la boîte?
Alors, ce qui est cool, c'est que déjà, le jean, tout le monde le porte, ça parle à tous. Et aussi banquier soit-on, aussi entrepreneur soit-on, aussi prof soit-on, on est tous dotés de deux bras, de deux jambes, d'un petit cerveau et d'un petit cœur. Et en fait, cette homogénéité de nos attributs fait qu'en fait, on est sensible à peu près aux mêmes choses, à des nuances près. Mais en vrai, quand par la proximité, vous montrez à votre grand-mère, votre tante, votre oncle, banquier, que sais-je, que... Il y a des projets cool, il peut venir visiter. Alors, il peut avoir plein d'a priori. Non, le textile, on ne fabrique plus en France, c'est mort, machin, etc. Le made in France, c'est trop cher. Tout ça, c'est des croyances, hein. On peut en reparler. C'est vraiment... je vais faire une petite parenthèse. On dit que le made in France, c'est cher. Et on dit à cause de la France, en quelque sorte. C'est une pure croyance. Une voiture française, elle est moins chère qu'une voiture allemande. Mais la voiture allemande, on ne va pas dire qu'elle est chère. On va dire qu'elle est de qualité. Alors que la voiture française, moins chère que la voiture allemande, on va dire qu'elle est chère. Vous allez dire, Made in Salina, c'est pas cher. Ben, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez comme téléphone. Toi, c'est quoi? Un iPhone? Un iPhone. Made in où? Made in China. Donc en fait, nos téléphones, nos iPhones, sont tous Made in China, comme le Wiko du coin, qui est à 100€ et l'iPhone à 1000€. Donc ça veut bien dire que c'est pas le pays qui fait le prix. Et d'ailleurs, si on s'intéresse à l'industrie française, et notamment à l'industrie agroalimentaire, par exemple, qui a eu besoin... de développer des produits de grande consommation pas chers, et bien du coup, elle s'est organisée avec une industrie qui est capable de faire du fromage d'entrée de gamme, made in France, de la même manière qu'il existe du fromage haut de gamme, made in France. Et donc, il n'y a que dans la mode ou dans l'imaginaire, dans la croyance de chacun, qu'on associe le made in France aux produits de fait chers, sans considérer le rapport qualité-prix, sans considérer la qualité, et sans considérer aussi qu'on a des outils industriels qui sont capables de faire des choses d'entrée de gamme. Le problème, c'est que dans la mode, on a nos champions de la mode des 30 Glorieuses qui sont devenus des distributeurs, donc qui fabriquent au bout du monde, pour faire du pas cher. Donc eux, ils nous ont fait croire qu'en fait, on n'était plus capable de faire du pas cher. Et à côté de ça, les ateliers qui sont restés en France sont des ateliers qui sont plutôt associés au luxe, et qui ont donc tiré toute la filière vers une dimension de gamme qui est super, qu'il faut préserver, qui est très précieuse, qui est extraordinaire même, mais qui nous ont fait oublier de penser qu'on pouvait aussi développer des outils de production adaptés à des choses plus simples, plus accessibles, plus industrielles peut-être, mais du coup plus abordables. Et du coup, à force de se marteler, le made in France c'est cher, et on est capable de faire plus que du luxe, et bien en fait, on a fini par oublier que nos iPhones étaient fabriqués en Chine, dans des pays à bas coût, et que pourtant ils étaient chers. Et on a fini par oublier que le fromage qu'on achète pas cher, il est made in France, alors qu'il est pas cher. Et donc tout ça, c'est des croyances qui nous orientent énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nos banquiers, nos financiers, nos investisseurs, aussi professionnels soient-ils, en réalité, ils sont gorgés de croyances comme tout le monde, gorgés d'émotions comme tout le monde. Et donc, même s'ils peuvent avoir une sensibilité proche ou lointaine de nous, ce qu'on va leur proposer, ça doit les faire bouger. D'un millimètre pour certains, si c'est des gens pétris de certitude et loin de nous, de 10 kilomètres pour d'autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire bouger les gens. Après, on prend la responsabilité de les faire bouger, et après c'est à chacun de faire la distance qu'il souhaite faire, quoi.
Et idéalement 1083 kilomètres.
Au maximum.
Et est-ce qu'on arrive du coup à devenir rentable facilement en faisant justement pas du haut de gamme en France ? Avec tout ce qu'on a autour des impôts, des taxes, le coût du travail, comment on arrive à trouver le juste milieu entre les contraintes qu'on a en France et le fait de pouvoir produire et vendre?
Alors merci pour ta question. C'est un parfait exemple de croyance. Nous, nos jeans, on essaye de les vendre à peu près au prix de Levi's, donc entre 100 et 150 euros. Quand on regarde un jean Levi's, on voit un certain prix, donc entre 100 et 150 euros, qui est bien différent d'un jean H&M qui est à 30 ou 40 euros. Donc on se dit que ces jeans doivent être vraiment différents, vu la différence de prix. Et puis on quitte l'étiquette de prix, et on regarde un peu, on fouille un peu dans le jean, et on regarde l'étiquette de composition. Et on s'aperçoit que ces deux jeans si différents sont en fait fabriqués dans le même pays, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, avec les mêmes matières premières. 99% coton, 1% élastane ou que sais-je. Donc en fait, c'est pas du tout le jean qui est discriminant entre ce jean H&M et ce jean Levi's. Ils sont fabriqués dans les mêmes conditions, avec les mêmes matières premières. Donc en fait, c'est pas les conditions de travail qui font le prix du jean, fondamentalement. C'est autre chose, vu que c'est les mêmes modèles. Ça veut dire que nous, quelles que soient nos conditions de travail, si c'est pas ça l'élément déterminant qui fait le prix d'un jean Levi's par rapport à un jean H&M, bah ça veut dire que nous, on a matière à prix égal de distribution comme H&M, faire peut-être un modèle, un jean concurrentiel de Levi's. Pourquoi ? Parce qu'en fait, H&M va les vendre en circuit court, alors pas en kilomètres, hein, c'est-à-dire qu'ils vont l'acheter au bout du monde, mais la marque et le commerçant en même temps. Grâce à ça, il n'y a pas d'intermédiaire de distribution. H&M fait fabriquer et vend direct dans ses magasins. C'est comme la map du coin, c'est comme la grande distrib. C'est vraiment un modèle de distribution hyper efficace, avec peu de marge. Donc en fait, le jean, il a acheté 10, il est vendu 30 x 3. C'est très peu. Levi's, à l'inverse, ils vont acheter 10 aussi, mais ils vont avoir besoin de vendre plus cher, parce qu'en fait, ils ne vont pas vendre un prix, ils ne vont pas vendre un produit non plus, comme H&M. H&M, en fait, oui, pardon, parenthèse, les deux ne vont pas vendre un produit. H&M va vendre un prix, et Levi's, donc le prix, c'est l'émotion d'acheter un truc pas cher, correct évidemment, mais pas cher, et Levi's va vendre l'émotion de tout ce qu'il y a, de tout l'imaginaire qu'ils vont faire gonfler en nous grâce à leur communication, leur image de marque, etc. Et donc, pour ça, il faut des moyens. Il faut faire des photos, il faut faire du marketing, il faut faire de la pub, il faut des intermédiaires de distribution, tout ça coûte cher. Et donc, quand H&M fait x3 sur son jean, Levi's va faire x10. Et c'est ça qui fait la différence du prix. Donc, s'il y a des gens qui sont rentables en faisant que x3, copions leur modèle économique. Pourquoi pas faire comme la map du coin ou comme H&M du circuit court en Made in France. Pas pour acheter pas cher et vendre pas cher comme le fait H&M, mais pour essayer de concurrencer des jeans moyens haut de gamme, entre 100 et 150 euros, avec le modèle économique du distributeur le plus agile. La grande distrib, H&M, la map du coin, c'est tout du circuit court, ça. Et donc, si on n'est pas obligé de faire x10 comme Levi's, mais qu'on a juste besoin de faire x3, ça veut dire qu'au lieu d'acheter 10 euros notre jean comme a besoin de le faire Levi's pour le vendre 100 euros, nous, si on veut le vendre 100 euros, divisé par 3, ça veut dire qu'on a une capacité d'acheter nos jeans 33 euros en étant rentable, puisqu'a priori, le modèle économique d'H&M est robuste, vu comme il se développe. Donc en fait, on ne prend aucun risque à se dire on va positionner un jean sur le marché de Levi's, plein de gens en portent, donc le marché existe. Avec le modèle économique d'H&M, il y en a plein partout, ça cartonne, donc en fait, leur modèle économique doit être intéressant. Et donc nous, on a juste fait la synthèse des deux, en se disant, tiens, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en France pour 33 euros. Et la surprise, on s'est aperçu que, juste en changeant le modèle de distribution, on se donnait les moyens à nous-mêmes d'acheter plus cher. Et donc, notre problème, ce n'est pas le coût du travail. Notre problème, c'est le coût de la distribution. Et donc, la différence entre Levi's et le H&M, c'était la distribution, ce n'est pas le coût du travail. Donc, la croyance qui nous pousse à dire, ah là là, c'est foutu d'avance, on est en France, on ne peut pas faire ce produit-là, en fait, elle n'avait pas de sens rationnel. Auprès même des banquiers, des gens du métier, etc. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'en fait, même les gens les plus sérieux étaient trompés par leurs croyances. Et donc, c'est ça qui me fait dire qu'en fait, oui, c'est possible de relocaliser une filière du jean en France si on se base sur des choses rationnelles, si on regarde les choses telles qu'elles sont. C'est pas facile de voir les choses telles qu'elles sont parce qu'on est pétri de croyances dont il faut se nettoyer, en quelque sorte, en prenant du recul, en s'intéressant aux choses, en étant curieux, tout simplement. Et si on fait ça, alors on découvre des chemins que personne ne vu, aveuglés par les croyances, qui sont des vraies opportunités. Par contre, du coup, ça demande de ne pas faire les choses de la même manière que les autres, puisqu'en fait, on n'a pas les mêmes cartes. On va vendre des jeans à 100 ou 150 euros comme Levi's, mais par contre, dans notre jeu, on n'a pas les mêmes cartes en main. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes stratégies. On ne va pas faire des millions de communications, vu qu'on n'a pas d'argent pour ça. Bon, du coup, quand on va acheter des machines à coudre, parce qu'on en a les moyens, puisque du coup on a un circuit court de distribution, et en fait on va surinvestir sur les machines un peu de communication pour que chaque machine à coudre, en plus d'être productive en termes industriels, elle soit productive en termes de communication, susciter de l'engagement. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec nos cartes en main. Levi's ne peut pas faire ça parce qu'il n'a pas ces cartes-là.
Et alors vous avez choisi de vous mettre sur le jean. Le jean, c'est un peu le monstre à battre en termes d'impact écologique dans le monde des vêtements. Ça utilise près de 7000 litres d'eau en moyenne, plein de produits chimiques pour teinter et délaver. Quelle est, vous, votre technique pour éviter tous ces problèmes écologiques?
Le jean, c'est le symbole de la pollution textile. Mais ce n'est pas forcément le pire vêtement. Tous les vêtements sont dans une matière première. Un t-shirt, un pantalon, ça va être du coton, par exemple. Bon, bah, l'impact du coton pour le t-shirt et pour le pantalon est le même. Ensuite, ce coton va être teint, va être filé, va être tissé, va être coupé, va être cousu. Ça, c'est la même chose pour un jean ou pour un t-shirt. Donc, en fait, le jean, c'est un peu injuste contre lui, mais il est aussi polluant que les autres vêtements, à la nuance près, mais ça existe aussi sur d'autres vêtements, que ce jean, pour l'éclaircir, on va le délaver. Et ce délavage est une étape supplémentaire, très visuelle et très gênante, puisqu'en fait, pour avoir la nuance 30, on va d'abord teindre le jean à 100, puis on va lui enlever 70. Donc en fait, c'est un peu choquant de voir qu'en fait, pour faire un produit neuf, usé, on va dépenser autant d'énergie. Ça gêne, en fait. Et donc ça, ça touche. Donc, ça rend le jean symboliquement plus crade que les autres vêtements, alors qu'en fait, il y a plein d'opérations de teinture qui font ça dans leur process pour avoir un rouge comme mon pull et qui, en fait, sont pas plus propres que le délavage d'un jean. Mais ça va nous chiffonner de voir qu'on va vendre des jeans neufs déjà usés. Et donc, symboliquement, ça va charger le jean de cette négativité qui fait qu'on va le juger comme plus polluant. Il est polluant comme tous les vêtements quand il est fabriqué de manière conventionnelle. Un jean conventionnel, ça consomme énormément d'eau. L'eau, c'est un problème plus complexe qu'il ne paraît aussi, puisqu'en fait, l'eau, c'est un cycle. Le problème de l'eau, c'est pas d'en consommer beaucoup, c'est d'en consommer trop par rapport à là où on est, par rapport à la ressource disponible. Donc c'est le différentiel entre la disponibilité de l'eau et notre consommation qui fait notre responsabilité. Consommer un litre d'eau en Normandie, c'est pas la même chose que consommer un litre d'eau dans le Sahara. Donc en fait, la quantité d'eau ne veut rien dire si on n'a pas le contexte. Et en plus, on peut consommer 60 000 litres d'eau en Normandie peut-être, sans la polluer, c'est indolore. Ça revient dans l'environnement, il n'y a pas de sujet. Par contre, consommer 5 litres d'eau dans le Sahara et le polluer, bah là peut-être c'est deux morts en fait. Donc en fait, la quantité d'eau n'est pas le sujet fondamental. C'est plutôt, est-ce qu'on utilise bien l'eau et est-ce qu'on la rend propre à l'environnement local où on l'a prise. Ensuite, toutes les étapes de transformation mécanique, elles, l'enjeu, il est principalement énergétique. C'est-à-dire que le tissage, la coupe, la confection, la filature, ce sont des métiers qui ne demandent que de l'énergie pour avancer. Cette énergie, dans les pays, dans 90% des pays, elle est beaucoup plus carbonée que chez nous, avec le nucléaire et avec les énergies renouvelables. Donc en fait, rien que le fait de relocaliser physiquement en France ces productions avec une source d'énergie décarbonée, on est infiniment plus responsable que le même jean en Allemagne ou en Chine ou au Pakistan. Donc en fait, à processus égal, vous déplacez les machines, vous avez un jean plus propre. L'eau, donc on en a parlé, l'enjeu c'est de ne pas la souiller. Donc là en France, on a des normes drastiques grâce à l'Europe qui nous empêchent de faire certaines choses qui sont malsaines pour l'humanité, pour l'environnement. Ce qui est un peu couillon, c'est que ces règles qu'on s'interdit à nous, on ne les interdit pas aux produits que l'on importe. C'est stupide, hein, c'est vraiment de la... On organise la déloyauté de nos partenaires, donc on appelle ça de la naïveté ou de l'incompétence. Mais c'est vraiment bête, quoi, on se tire une balle dans le pied. Alors que ces règles sont très bien, elles nous protègent. Mais qu'elles nous protègent écologiquement, c'est très bien, il faut continuer. Mais ça serait bien qu'elles nous protègent économiquement aussi. Sinon, bah, on crée une distorsion qui fait que bah, ce qu'on s'interdit de faire, on s'autorise à l'acheter. Donc, pas cohérent. Et un des points aussi qui est important, c'est la partie kilomètre, qui représente assez peu, finalement, sur l'impact carbone d'un vêtement. Mais un jean, ça parcourt en moyenne 65 000 km, donc une fois et demi le tour de la Terre. Et un jean 1083, jusque-là, ça parcourait à peu près 12 000 km, puisqu'on importe notre coton bio de Tanzanie, un pays qu'on a choisi parce qu'il était naturellement très bien irrigué en eau. Donc en fait, l'eau, c'est en fait le problème, c'est l'irrigation, c'est pas le sujet de l'eau. S'il y a de l'eau qui tombe du ciel, tout va bien en fait. Et donc c'est coton pluvial bio que l'on importe de Tanzanie, donc ça c'est le plus gros des kilomètres, à peu près 10 000 km. Et tout le reste, filature, teinture, tissage, confection, c'est fait en France, sauf certaines teintures qu'on fait en Italie ou certaines filatures qu'on fait en Italie, puisqu'on a plus d'outils de production. Mais c'est une minorité. Mais du coup, rien qu'en faisant ça, on passe de 65 000 à 12 000 km. Donc déjà, on divise par 5 l'impact carbone lié au transport. C'est beaucoup plus que ce que nous demandent les accords de Paris. Hein, donc c'est juste par la relocalisation, énergie plus propre, plus moins de kilomètres, on fait des bons spectaculaires. Et tout ça, on en a les moyens, parce qu'on n'a pas le même modèle économique. Il n'y a aucune innovation technologique, il n'y a rien, hein, c'est juste du bon sens, quoi. Et le jean qu'on va lancer là dans quelques jours, c'est un jean dont le coton est cultivé en France. Donc ça va être un jean, le premier jean en coton, 100% français, du coton jusqu'au bouton. Et donc là, on va faire quelques centaines de kilomètres, un peu plus que 1083 malheureusement. On aurait bien aimé que ça fasse moins. Mais ce jean, bah, il va être cultivé ou recyclé, le coton, dans les Gers ou dans la Drôme. Ensuite, il va être filé dans le nord de la France. Il va être tissé dans les Vosges. Tout ça, ça va faire quelques centaines de kilomètres. Et donc, en 10 ans, en fait, par le modèle économique et par le bon usage des cartes qu'on avait en main, eh ben, on sera passé d'une production de 65 000 kilomètres à une production de 1000 ou 2000 kilomètres. Et donc ça, on voit que le cœur de l'innovation, et j'ai plein d'autres exemples si ça vous intéresse, il n'est pas technique, il n'est pas technologique. Il est avant tout de se laver de ses croyances et de regarder les choses en face et de considérer chaque carte comme un atout qui puisse se permettre de réinventer une autre manière de faire les choses qui change tout.
Vous avez parlé du cycle de l'eau. Je vois que c'est quand même une chose importante, la notion de cycle dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la notion de perma-industrie que vous avez un peu mis en avant à travers justement votre produit du jean infini?
Alors la perma-industrie, c'est un nom qui est sorti de je sais pas où en discutant avec des collègues. Parce qu'en fait, on est embêté par un truc, c'est que le monde est polarisé sur le constat. Ça y est, on est d'accord, l'origine du réchauffement climatique est humaine. On a mis 40 ans, mais là, il n'y a plus trop de débat. C'est con qu'on ait mis 40 ans, mais encore une fois, c'est humain, on fonctionne à réaction, c'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Donc là, on a compris ça, mais on n'est pas encore polarisé par le cap à suivre collectif, la solution. L'histoire du monde a toujours été marquée par des courants de pensée qui ont influé la trajectoire du monde. Les Lumières, le communisme, où on servait le commun. Le socialisme, on servait le social. Le capitalisme, on sert le capital. Et là, qu'on a besoin d'un cap majeur pour nous polariser vers la solution, le monde de demain n'est pas nommé, n'est même pas défini. Tous les termes qui définissent le monde de demain sont des termes relatifs. L'altermondialiste, bon, c'est autre chose que le mondialisme. La transition, bon, on transite, mais alors on ne sait pas vers où. Les mouvements d'impact, on dit entreprise à impact, etc. Bah oui, mais un impact, ça peut être chouette, un chouette impact. Mais Carglass, il traite les impacts parce que c'est un problème. Donc en fait, ce sont que des mots. The Shift Project, j'adore hein, Jean Covici. Et c'est un mot où en fait, on fait un pas de côté, on ne sait pas où on va. Et donc je pense que ce constat partagé de l'origine humaine du réchauffement climatique, mêlé au manque de cap, fait une forme de précipitation, de bouillonnement, d'initiative pas organisé, pas dirigé, parce qu'en fait, le monde de demain, tant qu'il ne sera pas nommé, n'existera pas. Et aujourd'hui, il n'est nommé que par rapport au présent ou au passé. Ben, en fait, il n'est pas nommé du coup. C'est comme toi, c'est Nathan ton prénom ?
Normand.
Normand, pardon. C'est comme toi, au lieu de t'appeler Normand, je te dis, ben, tu t'appelles pas Gérard, tu t'appelles pas François, mais ça dit toujours pas plus qui t'es. Et en fait, ça, c'est pas possible, en fait, on n'arriverait pas à dialoguer. Ce monde de demain, il est hyper important. Et donc, le mot perma-industrie, c'est un mot trop compliqué, je pense, pour qu'il puisse incarner ce monde de demain. Mais il a juste pour vocation à dire, les gars, si on ne travaille pas ensemble sur le récit de demain, tant qu'on n'aura pas de récit, en fait, on sera trop lent, on ne sera pas organisé, on sera dispersé. Donc, il faut qu'on bosse sur le sujet. Et donc, si on n'a pas encore le mot magique dans la forme, par contre, peut-être on peut faire des propositions dans le fond pour essayer de penser quel pourrait être le monde de demain. Alors déjà, faisons le constat du monde présent. Notre monde, on l'associe souvent à une économie. Mais si on se met à la place de la Lune et qu'on regarde la planète Terre, est-ce qu'on voit des flux de 0 et de 1 sur les fibres optiques qui traversent l'océan ? Non, on ne voit pas des euros, en fait. On voit des flux depuis la Lune. On voit des flux sur la mer, on voit les flux sur les continents, de gens, d'objets. Et donc, on voit quoi? En fait, on voit une gigantesque usine. Et donc, notre premier parti pris, c'est de se dire, si on est objectif avec le monde tel qu'il est, en réalité, ce n'est pas une économie, c'est une industrie. C'est quoi l'industrie? L'industrie, c'est créer et produire ensemble. C'est génial, c'est le travail d'équipe, en fait. C'est la solution si on veut gagner la Coupe du Monde. C'est la solution si on veut faire plus que ce qu'on est capable de faire tout seul. Donc c'est génial l'industrie. Et l'industrie, ça dépasse les usines. C'est, on peut créer ensemble et produire ensemble des biens, des objets. On peut créer et produire ensemble des services. On peut créer et produire ensemble des œuvres. D'ailleurs, on parle de l'industrie de la musique, on parle de l'industrie de la finance, on parle de l'industrie agroalimentaire. En fait, tout ça, c'est l'industrie parce que tout ça, c'est créer et produire ensemble. Et donc, si ce monde est une industrie géante et que cette industrie est plutôt délétère, vu qu'elle ne gère que bien l'argent et de mieux en mieux les gens, mais pas partout dans le monde, et qu'elle commence tout juste à gérer, à considérer l'environnement, ben, en attendant qu'elle fasse tout bien, elle le fait plutôt mal. Et du coup, on s'est dit, ben, quel est autour de nous le modèle d'industrie le plus fameux, en fait, le plus inspirant, celui qui est mieux que nous, en fait. Et en fait, on s'est aperçu que c'était la nature. Parce que le produit de la nature, c'est la vie. Et la nature, quels que soient les aléas qui lui arrivent, quelles que soient les conditions, en mer, sur terre, dans l'air, sous terre, elle crée son produit, elle crée la vie. Et il peut y avoir du froid, du chaud, des astéroïdes, des incendies, etc. Quel que soit son terrain de jeu, la nature recrée son produit. De manière massive, de manière pérenne, de manière éternelle. Nous, peut-être qu'on mourra, l'humanité, de ce qu'on a fait de mal, mais jamais la nature ne s'arrêtera de produire du vivant, son produit. Donc on s'est dit, ben tiens, si la nature est meilleure que la meilleure des industries humaines, qu'est-ce qu'elle fait si bien la nature? Qu'est-ce qu'on peut copier? De quoi elle peut nous inspirer pour s'en servir? Et donc on s'est aperçu que la nature avait au moins 6 facteurs clés de succès qui nous inspirent et qu'on essaye d'inpunter dans notre business. Ces 6 facteurs clés de succès, c'est déjà la nature, elle crée, elle produit inlassablement. Donc en fait, il ne faut surtout pas qu'on s'arrête de créer et de produire, parce qu'en fait, c'est cette expérimentation, cet entrepreneuriat de la nature qui est fécond. Mais cette nature, comment elle crée, elle produit, c'est ça qui est intéressant, parce que ces 6 principes sont indissociables les uns des autres. Donc la manière de créer et de produire de la nature, déjà, c'est qu'elle le fait en s'interconnectant. Elle crée des liens. Il n'y a rien de fermé, il n'y a rien d'entre-soi. Une feuille tombe d'un arbre, ben elle va servir de nourriture à une fourmi qui va la découper et en faire quelque chose. Donc, deuxième principe, interconnexion. Troisième principe, la nature, elle s'adapte au terrain. Donc, en fait, elle fait avec ses cartes sur le terrain et elle crée quelque chose avec. Elle ne cherche pas à faire pousser du coton à un endroit où ce n'est pas possible. Ou alors, elle s'adapte pour le faire différemment. C'est exactement, d'ailleurs, un principe qu'on a repris pour faire du coton en France. On ne le fait pas de manière intensive, on le fait de manière agricole et pluviale et raisonnée. Du coup, on a une faible productivité. On en fait notre partie, c'est OK. On ne va pas chercher à faire du coton en Inde ultra productif, en France, pardon, comme en Inde, avec un système ultra productif qu'il faudrait mettre sous serre, chauffer et arroser. On pourrait avoir ces rendements en France, hein, si du coup on s'en donnait les moyens techniques, mais le coût environnemental serait désastreux. Donc on s'interdit ça. Et pour compenser le manque de rendement dans nos conditions françaises, on va chercher à compléter le coton en petite quantité neuf que l'on sait cultiver par du coton en grande quantité qu'on a en France, qui est issu de nos vieux vêtements. Donc c'est en associant l'économie circulaire et l'agriculture raisonnée du coton qu'on est capable de devenir aujourd'hui producteur de coton en France avec pas les mêmes ingrédients qu'en Inde. Donc ça, c'est s'adapter au terrain. Quatrième point, c'est que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Elle est circulaire. Donc, on va faire un modèle où il n'y a pas de déchets. Donc, recycler les vieux jeans, les consigner pour certains pour être sûr de les récupérer. Tout ça, nous rapproche de la nature. Le cinquième point, c'est que la nature, elle se diversifie tout le temps. Il n'y a rien de monolithique dans la nature. Un truc qui est monopolistique dans la nature finit par mourir. Vous mettez le même plant de coton partout dans le monde, déjà, il va mal pousser. Il y a besoin de diversité. Et en plus de mal pousser, s'il y a un parasite qui arrive et dont tout le monde, dont tous les plants de maïs sont sensibles, et bien en fait, toute la récolte du monde entier va mourir. Donc, la nature, elle n'est pas folle, elle ne met pas tout dans le même panier, elle diversifie tout. Et le dernier point, et c'est le plus, je dirais, difficile, je pense, pour l'humanité, c'est que la nature, elle se limite. Et en fait, ça, on le demande à nos enfants, vos parents vous le demandent, mange pas trop de bonbons, machin, enfin, quand on était petits, on était tous, et on le fait tous en tant que parents ensuite. Et puis à un moment, on devient mature et on arrive à s'autoréguler, à ne pas se jeter sur un paquet de bonbons, ce qu'on n'aurait pas su faire à 8 ans. Et bien en fait, aujourd'hui, dans le business, on a 8 ans. On ne sait pas se limiter. on ne sait pas se dire, non, mais en fait, la 1083, c'est des jeans made in France. Oui, on pourrait en vendre au Japon, en Chine, aux États-Unis, mais en fait, non, on ne va pas le faire. On trouve couillon d'acheter en France un jean chinois. Quel est le sens de vendre en Chine un jean français? Il n'y en a pas. Donc, OK, on ne le fait pas. Ou alors, si on le fait, on le fait autrement. Si on rêve de vendre des jeans 1083 aux États-Unis, OK, bah alors à ce moment-là, on produit localement nos jeans. Donc on exporte le concept, et là, on se fait du bien intellectuellement et on fait du bien à la planète, et on ne rêve pas d'exporter les produits, pardon.
On a bien parlé donc de l'impact écologique de la réindustrialisation avec rien que le nucléaire et les normes qu'on a en Europe. On a bien parlé de l'impact économique, du fait que ce soit pas si cher d'acheter français et que c'est très bien de garder les flux d'argent en France. Quel est maintenant l'impact social de la réindustrialisation? Est-ce que la création d'usines, ça redynamise les territoires, les villes de campagne et les villages? Quel est l'impact social de tout ça?
L'industrie, c'est vraiment large. Moi, je le vis au sens large. Et si on zoome sur, de manière plus micro sur des territoires, les filières façonnent la culture d'un territoire, façonnent l'histoire, le patrimoine. Donc, c'est hyper riche. Et il n'y a que dans des usines qu'on a, au cœur de l'usine, des doctorants jusqu'à des gens qui n'ont pas de diplôme. Et il n'y a pas trop d'autres entreprises dans le supermarché, vous n'avez pas du doctorant dans une assurance, vous n'avez pas du doctorant jusqu'au... Il n'y a vraiment que l'usine qui demande autant de largeur de société. Et s'il manque un maillon, juste l'usine n'existe pas. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on peine à recruter, mais c'est normal. Nous tous, collectivement, nous avons dégradé l'estime de soi des métiers manuels. Les ouvriers, on ne les appelle plus des ouvriers. On les appelle des opérateurs. L'opérateur, c'est l'opération. C'est binaire, c'est 0 ou 1, c'est le robot. L'ouvrier, c'est l'œuvre, c'est l'ouvrage. D'ailleurs, on ne dit pas meilleur opérateur de France, on dit meilleur ouvrier de France. Et les ouvriers, on les met tous dans le même panier. En plus, on les appelle ouvriers. Demain, quand vous bosserez, vous n'allez pas dire « Alors, tu fais quoi comme métier ?»« Ah, moi, je suis cadre. » Ben non, en fait, tu dis « Je vais être ingénieur, je ne sais pas quoi. Tu vas définir ton métier. » Ben en fait, un des plus grands facteurs de disparition des mots dans le dictionnaire français, c'est les délocalisations. Parce qu'en fait, on perd, nous, il y a des ourdisseurs, c'est des gens qui fabriquent la chaîne qui va sur le métier à tisser. Il y a des tisserands, il y a des couturiers, il y a plein de métiers en fait différents derrière ce mot ouvrier. Et en fait, d'une part, on utilise un mot dégradant opérateur plutôt qu'ouvrier, et en plus, on utilise un mot valise ouvrier plutôt que de dire le nom des métiers, ce qu'on ne fait pas pour les cadres. Donc ben, tout ça, ça ne donne pas de valeur au métier, puisqu'en fait, on les amalgame tous dans un mot valise. Et ça va au-delà de ça. En France, on a eu le plaisir de recevoir Mme Retailleau, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, il y a 2 mois au magasin pour une tournée qu'ils font au gouvernement d'entreprises engagées, etc. Et j'ai réalisé en la recevant qu'en fait, son ministère était nommé ministère de l'Enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métiers qui sont manuels, c'est inférieur du coup. Et bien en fait, tout ça, ça forge nos croyances qui sapent l'attractivité des métiers manuels dont on a tant besoin. Donc on dépense des millions d'euros pour former des gens à qui on a dit pendant 50 ans, ton métier c'est de la merde. Bon ben c'est compliqué du coup de fidéliser les gens, de dire si regarde c'est trop bien, on en a besoin et vraiment ça nous touche, on adore ton savoir-faire. Ben oui, mais pourquoi pendant 50 ans t'as dit que c'était une opération et pourquoi mon métier n'existe même pas dans le gouvernement et il est inférieur? Eh bien, tout ça, l'usine incarne ça, rassemble ça, permet de comprendre ça. Et pour moi, je crois vraiment que l'industrie peut nous aider à refaire société avec tout le monde. Parce que du coup, c'est terrible, mais s'il manque un maillon, la chaîne, elle ne marche pas. Donc tout le monde est pénalisé. Donc tout le monde va venir au chevet du chaînon abîmé. Et ben, on va le travailler pour l'améliorer, pour que la chaîne remarche. Et donc, il nous aura fallu taper inconsciemment pendant 50 ans sur ces métiers-là, pour se dire merde en fait, ils sont plus là, on en a besoin, en fait ils avaient de la valeur, en fait on va leur dire, et en fait on va reconstruire un nouveau chemin de valeur où chacun se sent plus respecté. Et donc moi je crois beaucoup en ça, enfin de toute façon on n'a pas le choix, et en plus en tant que marque aujourd'hui, on est confronté chez 1083 à un fait nouveau, qui est plutôt heureux, c'est que il y a 10 ans quand on a lancé 1083, ce qu'on disait était très discriminant, très disruptif, donc du coup, visible. Et là, aujourd'hui, notre communication, vous allez sur le site de 1083, vous allez sur celui d'H&M, on dit la même chose. Respect des gens, respect de l'environnement, blablabla. Et donc, finalement, notre discours n'est plus discriminant par rapport à notre contexte, notre terrain de jeu. Donc, le pouvoir magique qui nous reste, c'est plus de dire les choses, c'est de les faire vivre. Et donc, nous, on a une carte maître pour ça, c'est nos usines. Donc, en fait, nous, on se dit, ben, si on rapproche encore plus nos clients de nos usines, en régionalisant la production, donc en diminuant les kilomètres encore, qu'on permet à chacun de visiter l'usine 1083, et ben en fait, c'est comme si vous aimez le vin, vous allez chez le vigneron, ben cette bouteille de vin que vous avez achetée à 10 euros à Monoprix, qui est insipide, qui est normale en fait, si vous l'achetez au même prix et au même goût chez le vigneron, après une heure de visite, voir si c'est votre voisin, enfin, ça va vous toucher en fait. Et du coup, ce vin, vous allez y prêter une attention bien plus forte, il va être meilleur au même goût, il va être moins cher au même prix, et ça va vous engager tellement qu'au lieu d'en acheter une à l'arrache sans choisir, vous allez commander 10 caisses, et quand vous allez chez vos potes pour une soirée, vous allez amener la bouteille de vin, vous allez raconter l'histoire de la bouteille de vin, vous allez devenir en fait le messager de cette même bouteille de vin dont vous avez été le médiateur invisible pour la même bouteille de vin que vous avez achetée chez Monoprix. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que notre avenir est vraiment dans les usines, et dans le fond, et dans la forme.
Je vais me permettre une question un peu piquante. D'aucuns diraient que cette vision-là, que d'aller acheter son vin chez le vigneron, etc., ça a beaucoup de valeur. Ça s'applique à une certaine niche de clients qui ont, entre autres, l'aisance financière de le faire et qui voient de la valeur dans ces choses-là, mais que ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, obligés d'être pragmatiques dans leurs achats et très sur le prix uniquement. Je ne dis pas que c'est mon avis, mais c'est un argument qu'on entend souvent. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Deux choses, peut-être même trois, si je n'oublie pas les deux autres. Le premier, c'est que la mode est un besoin émotionnel. Et du coup, on dépense plus avec son cœur qu'avec son porte-monnaie. C'est pour ça que les marques, on peut avoir pas beaucoup d'argent et s'acheter un sac Vuitton ou un iPhone ou une belle voiture. Donc en fait, il n'y a pas de lien entre le pouvoir d'achat et les marques qu'on va désirer consommer. Et il y a des gens qui vont économiser des mois, des années pour avoir la paire de baskets qui va bien, parce qu'en fait, c'est pas rationnel la mode, donc ça le sera jamais. Et donc, il y a un sujet que chacun puisse se vêtir et d'aide aux personnes qui ont vraiment des enjeux de pouvoir d'achat. Mais le problème de fond, c'est qu'on dépense trop, on a trop donné de la valeur émotionnelle à des choses anecdotiques. Plus on a dégradé le prix des choses, on sait plus ce que ça vaut en fait, un jean, etc. Et donc nous, on est obligé donc les gens nous disent 100, 150 euros, c'est pas donné. C'est cher parce que c'est made in France. Alors, déjà, la première réponse, c'est tu portes un Levis, tu l'as payé combien ? Ah le même prix. Bon, donc... Premier point. Deuxième point, on va te faire vivre ce que c'est de faire un jean. Donc viens dans l'usine. Ah ouais, quand même, et tout, c'est compliqué, c'est génial, c'est beau, ça me donne envie. Troisième point, on va te partager les patronages de nos jeans. On va t'expliquer comment faire ton jean sur une machine à coudre en te donnant nos patrons. Ça, c'est un bouquin, c'est deux bouquins qu'on a fait avec Erol, qui s'appelle L'atelier du jean et l'atelier du denim, où on donne les patronages de nos jeans. Et on dit, les gars, essayez de faire votre jean chez vous, sur votre machine à coudre. Vous allez le vivre. C'est gratuit. Prenez un morceau de tissu, faites-le. Et bien, vous allez mettre 10h, 15h. Vous allez faire un jean pas terrible. Et vous allez vous dire, putain, en fait, ça vaut pas 30 euros. Ça fait deux jours que je suis dessus, c'est moche. J'ai vécu le fait qu'en fait, ça vaut plus. Et donc, c'est en vous faisant vivre ça qu'on reconnecte la croyance de un vêtement, ça doit être pas cher, en fait, voilà ce que ça vaut. Donc ça... Plus le fait que les émotions font qu'on dépense plus ou moins d'argent, c'est pas le cœur du sujet. Et quand bien même ça le serait, ces notions de pouvoir d'achat, inventons un moyen de faire des vêtements pas chers. Un exemple avec le jean. Le jean, on adore le patiner. Ça se patine, ça se vieillit, etc. On adore le patiner au point qu'on le vend neuf, déjà usé. C'est déjà un peu... Alors, on peut le regretter, mais c'est une énorme chance pour le jean. Pareil, c'est un peu contre-intuitif, mais vous avez demain un trou dans votre pantalon. Donc toi, tu as un pantalon en velours. Demain, tu as un trou de 1 cm au genou dans ton pantalon. Ton pantalon, il n'est plus utilisable. Tu as le même trou dans un jean, et en fait, ton jean, il est cool quand même. Et donc, ça veut dire qu'à valeur matérielle égale, la valeur immatérielle du jean, sa durabilité émotionnelle va être plus longue parce qu'on aime le patiner, parce qu'on aime l'user. Donc, d'un côté, c'est une opportunité parce qu'en fait, les jeans peuvent durer très très longtemps émotionnellement. D'un autre côté, ça nous fait du coup produire neuf des jeans déjà usés. Mais cette hérésie de produire des jeans déjà usés, en fait, c'est la conséquence d'une vertu du jean qu'on peut le porter émotionnellement très 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 longtemps. Et donc, d'un côté, on a ce besoin ou cette envie de porter des jeans très longtemps. C'est trop bien. Si on pouvait faire ça pour tous nos vêtements, ben on consommerait moins. Donc, en fait, le jean est un produit qui nous offre la chance de prendre plaisir à consommer moins. Et c'est ce qu'on veut, donc trop cool. Mais sauf que la manière de le produire aujourd'hui, c'est de faire neuf des jeans déjà usés. Beaucoup d'énergie pour ce résultat-là. Alors que par ailleurs, on jette plein de jeans chaque année, délavés naturellement. Le problème, c'est qu'on ne boucle pas la boucle. C'est qu'en fait, si on savait commercialiser industriellement ces jeans déjà usés, on aurait juste à requalifier ces jeans-là, avec des photos, avec la taille, etc., pour en faire une énorme base de données et permettre à des gens d'acheter des jeans déjà usés, déjà portés, mais peut-être 5 euros ou 10 euros. Donc en fait, peut-être que la réponse pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas capté qu'un jean, le prix juste, c'était 100 ou 150 euros, peut-être que pour ces gens-là, la solution, c'est d'industrialiser notre capacité à commercialiser l'énorme gisement de jeans usés qui part dans nos poubelles. Et pour ceux pour lesquels on n'arrive pas à les vendre, eh ben, c'est pas grave, on les effiloche, on refait du coton, on mélange ça à du coton mal cultivé en France en agriculture raisonnée parce que les rendements sont mauvais, mais grâce à ces deux ingrédients-là, on refait un fil, et là, voilà, on entre vraiment dans l'économie circulaire. Et là, avec nos cartes à nous en France, ben, on a fait une ingénierie géniale. Et ça, c'est excitant. Et c'est pour ça que pour moi, bien gérer l'argent, bien gérer les gens et bien gérer l'environnement, c'est un défi génial. C'est un problème mathématique super excitant. Et je préfère, moi, me consacrer à craquer ces trucs-là plutôt que faire un boulot où c'est la routine et où je craque des trucs sans sens, quoi.
Et alors, vous en êtes où dans votre processus de recyclage? Est-ce que vous arrivez très bien à recycler des jeans? Ou est-ce qu'il y a encore de la marge de manœuvre en R&D?
Non, il y a énormément de marge de manœuvre en R&D. Là, ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet, donc on aura relocalisé toutes les étapes en 10 ans. Donc une filière complète en 10 ans. Et du 23 mars au 28 mai, on va commercialiser les premiers jeans 100% français en coton, de A à Z. Cette première production, elle va nous permettre on a cultivé 1,8 tonnes de coton dans le Gers et dans la Drôme. 7 tonnes 8, quand on va l'égrainer, donc enlever la graine de la fleur, il va rester que 600 kilos. Et si on mélange ces 600 kilos de coton cultivé à 600 kilos de coton recyclé, ça va faire 1200 kilos. Il y a 500 grammes de coton dans un jean, mais il y a 500 grammes qui sont perdus. On les réinjecte dedans, mais qui sont perdus au moment du processus, notamment pour tout ce qui est découpe. Mais donc, en gros, un jean consomme 1 kg de coton. Donc, avec 1200 tonnes, ça veut dire que du coup, on va pouvoir faire 1200 jeans. Donc, on va faire une campagne qui va vendre que 1083 jeans, évidemment, puisqu'on a 1200. C'est la nature qui a fait ça avec le coton qu'on a pu cultiver. Mais on ne va pas se priver de symboliquement donner de la valeur à ces 10 ans de travail pour localiser une filière complète. Et si on atteint d'ailleurs les 1083 précommandes, on numérotera chaque jean pour donner de la valeur encore plus à chaque jean et permettre à chacun d'être acteur du premier jean français en coton jamais produit de A à Z localement. Mais c'est que 1000 jeans. Et on en a vendu 50 000 en 2022. C'est extraordinaire pour nous. Mais le marché français, c'est 67 millions de jeans. Donc on est vraiment rien du tout. Tous nos efforts pour toucher vos cousines, vos tantes, vos frères, vos sœurs, pour qu'ils désirent acheter un 1083 plutôt qu'un jean lambda. Notre but étant qu'ils achètent le moins possible de jeans. En fait, comme il n'y a pas mieux placé que des marques de mode pour faire consommer beaucoup les gens, il n'y a pas mieux placé que des marques de mode pour les faire moins consommer. Et le problème de la mode majeure, la pollution majeure, c'est qu'on consomme trop. Donc nous, on doit leur donner envie de consommer moins, en donnant plus de plaisir. Et donc, s'ils consomment mieux chez nous, ils consommeront moins. Donc, on répond à notre mission.
Alors, vous l'avez dit, vous avez restructuré complètement la filière du jean. c'est un sujet, une vraie contrainte dans la réindustrialisation, c'est de restructurer des filières et des savoir-faire qu'on a perdus. Comment vous avez fait, en fait, pour réaliser ce défi-là qui existe dans beaucoup de secteurs en France ?
Un cap clair qui ne bouge pas et de la constance. C'est juste ça. Il n'y a rien de spécial, en fait. Depuis le début, on veut relocaliser toutes les étapes à moins de 1083 km de chez nous. Et depuis le début, ben, à chaque problème, on cherche une solution locale. Mais ça demande de sortir du cadre. Par exemple, relocaliser le bouton, ça nous a mis 5 ans. Parce qu'en fait, un bouton, c'est de l'emboutissage. C'est tout con, l'emboutissage. Hein. On martèle à une plaque de métal, ça la découpe, ça la plie, boum, on a un bouton. Sauf qu'on n'a plus les machines en France. Les machines françaises ont été délocalisées dans les fins des années 2000. Elles sont parties en Italie. Donc nos boutons, jusque-là, elles ne sont pas parties loin, elles sont parties en Italie. Mais pourtant, ce n'était pas aussi proche que la France. Donc on a cherché à le faire sur l'emboutissage. On a contacté plein de gens, du décolletage, de l'emboutissage. Mais personne ne pouvait faire nos boutons. Et finalement, par le hasard, la CCI de la Drôme nous a présenté une usine à 20 km de chez nous qui fait des clous de pneus cloutés. Donc un business improbable. Il y a 3 usines dans le monde qui font ça pour des marchés plutôt du nord de l'Europe et du nord des États-Unis où il y a de la glace. Et donc, ils font des petits bitonios de 1 cm de longueur et de 3-4 mm de diamètre. En fait, ils partent d'un fil de fer de 5 mm de diamètre. Ils le tronçonnent en petits cylindres de 10 mm de longueur. Donc, ça fait un petit tube. Et ce petit tube, ils viennent l'écraser, le tordre, ça s'appelle la frappe à froid, pour en faire une forme de champignon différente du fil de fer tout droit qui était à l'origine la matière première. Et nous, notre bouton, c'est un champignon aussi. C'est un tube fin plus un plateau un peu rond dessus. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très facile pour eux de faire ça. Jamais de la vie, on aurait imaginé aller voir un fabricant de clous de pneus cloutés pour faire nos boutons. Et pourtant, c'est grâce à ça qu'on a relocalisé la fabrication de boutons en France. Ça demande juste de la... Alors, je dirais 3 choses. Un cap clair, de la constance, et politiquement, ça nous manque terriblement. On ne sait même pas quelles filières sont les filières les plus stratégiques aujourd'hui. On n'a même pas défini ça. Donc, comment voulons-nous être constants avec une démocratie qui est rythmée par des changements tous les 5 ans ? En fait, on ne sait pas où on va. Premier point, définissons le cap. Bon, ben, nous, c'est la raison d'être de notre entreprise. 2, soyons constants. 3, soyons créatifs. Bon ben avec ça, on peut réinventer les ordinateurs, les micros, les gobelets. Si on l'a fait dans le jean, ce produit si concurrentiel, si polluant, si mondialisé, je suis certain que ce n'est pas avec les mêmes recettes que nous, dans le jean français, qu'on va réinventer les gobelets ou les ordinateurs en France. Mais je suis certain qu'avec un cap de la constance et de la créativité, ce n'est pas plus compliqué de le faire sur des ordinateurs, des micros ou des gobelets que sur des jeans.
Donc il reste bien de la culture industrielle en France sur laquelle se baser pour repartir. Il suffit juste d'être créatif et de travailler ensemble.
Oui, et tu as dit le mot juste. Le plus difficile des actifs à reconstruire, c'est la culture. Dans l'industrie, comme dans tous les métiers, il y a des conditions de travail, un contexte, qu'on tolère ou qu'on ne tolère pas. Là, on le voit, les restaurateurs, qui ont des conditions de travail particulières, galèrent à recruter. Parce que depuis le Covid, on a perdu la culture de ces métiers-là, en quelque sorte. Ils ont trop du mal à se remettre dedans. L'usine, c'est pareil. Mais quand vous avez vos familles, vos voisins qui ont connu ça, ben, en fait, c'est beaucoup plus acceptable. Quand vous avez un patrimoine dont vous êtes nostalgique, dont vous savez la valeur parce que vous l'avez vécu, ben, ça donne du sens en fait, de faire ces efforts-là. Nos métiers, je les compare souvent aux métiers de cuisinier. Cuisinier, c'est un métier qui, quand j'étais à l'école, n'avait pas de valeur. Les gens qui faisaient cuisine, c'était ceux qui n'étaient pas bons en maths ou en histoire. Ils ne le sont toujours pas, d'ailleurs. Mais leur talent, il n'est pas là. Et eux qui sont allés en filière cuisine sans fierté, même avec un peu de honte, depuis Top Chef, Master Chef et compagnie, c'est les rois du pétrole. Eux et leurs parents sont très fiers du métier génial qui est devenu génial de leur enfant. Et ça, c'est super important. Ça donne du sens à la répétition aussi. Dans l'usine, dans le monde ouvrier, on tape sur la répétition. Mais tout est répétition. Ce que je vous dis, je l'ai dit 1000 fois, je le redirai 1000 fois. Un facteur, il fait la même tournée. Un prof de maths, il répète son cours pendant 20 ans. Un pianiste, il fait ses gammes toute sa vie et on va s'émerveiller de son œuvre. Et ben, une couturière, c'est comme un pianiste. C'est comme moi. On répète nos gammes et ça nous rend bon, en quelque sorte, dans ce que l'on fait. Et ben, ce respect qu'on a du sport de haut niveau, de la musique, en vrai, les savoir-faire, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'est quelque chose de très, très, très important, cette culture industrielle. C'est qu'en fait, quand on saura de nouveau respecter tous les savoir-faire au point de les considérer avec le même respect, le même émerveillement que on s'émerveille d'un musicien ou d'un athlète de haut niveau, bah là, on aura redonné son sens à tous. Et ça, ça s'appelle la culture.
Je suis tout à fait d'accord, c'est sûr. Est-ce que vous avez eu d'autres barrières, d'autres contraintes à l'industrialisation, que ce soit sur le foncier ? Est-ce que c'est simple de s'implanter dans un territoire, construire une usine et trouver de la main-d'œuvre ?
Non, pour moi, les principales contraintes, c'est les croyances. Ça nous nique tout, hein. C'est vraiment, ça nous ralentit, c'est notre boulet invisible aux pattes. Et en 2023, en plus, franchement, il y a plein de thunes pour ceux qui veulent monter des usines. C'est devenu à la mode. C'est plus le sujet. En plus, là, il y a des obligations réglementaires qui imposent les territoires, les collectivités locales à ne plus étanchéifier, imperméabiliser les sols. Donc en fait, on est obligé de réutiliser les friches industrielles que l'on a. Donc il y a plein d'opportunités, de bâtiments plein de sens en plus. Si on avait eu ce niveau de maturité de filière et intellectuelle il y a 5 ans, on aurait été à contre-courant. Donc je vous aurais peut-être répondu ça. Frustré de ne pas trouver de solution. Mais là, ce n'est pas les solutions qui manquent. Là, tout le monde est dans le même sens. Y a pas de... Le problème, c'est qu'il faut accélérer, il faut changer d'échelle. Et surtout, il faut un cap. Et c'est ce cap qu'on a appelé nous perma-industrie qu'il est urgent de définir et de nommer. C'est ça l'urgence.
Alors, vous avez parlé d'argent. Vous n'avez pas fait de grandes levées de fonds. Enfin, vous avez fait un financement participatif. Quelle est votre vision du financement de start-up, spécifiquement dans l'industrie ? Quel est le meilleur modèle pour l'industrie ?
La nature. Perma-industrie. Nous, par exemple, nos sources de financement, il est très diversifié. On fait du financement participatif de produits, comme là pour nos 10 ans. On a fait du financement participatif, pas en equity, mais en obligation. On a fait du financement bancaire. On a fait entrer des fonds impact dans notre capital. Donc en fait, c'est une variété de modes de financement qui nous permettent de nous adapter à tous nos besoins et d'être agile avec des solutions. Parfois, des moments où on manque de trésor, etc. Et grâce à nos différentes cartes dans notre jeu, on arrive à trouver des solutions.
Et même avec le temps long de l'industrie et de la rentabilité industrielle, l'investissement est accessible.
C'est une très bonne question. Quand on a besoin de financement, on s'endette. Mais pour s'endetter, il est bon d'avoir des sous. Comme quand on veut acheter un appartement. Parce qu'en fait, le prêteur, il va d'autant plus vous faire confiance qu'il voit que vous avez les reins solides. Et donc, c'est votre épargne qui va faire sa mesure à lui de vos reins. Cette épargne, donc ces bénéfices, enfin cet argent accumulé que vous faites quand vous avez un salaire et que vous mettez de l'argent de côté, vous pouvez le construire vous-même, mais ça prend du temps. Ou vous pouvez l'avoir de l'extérieur. Un héritage, vous gagnez au loto, je ne sais pas quoi. Et bien, la manière pour une entreprise de le gagner de l'extérieur, c'est de lever des fonds. Donc, c'est-à-dire de vendre une partie du potentiel de votre entreprise pour que votre copropriétaire finalement verse une somme à l'entreprise et du coup augmente les fonds propres, les réserves de l'entreprise. Ce qui permet aux banquiers de dire « Ouh là là, du coup, ils ont du cash, donc je peux prêter plus ». Ça sera toujours comme ça, c'est valable pour un appartement, pour une usine, c'est de la gestion de risque. Le problème, c'est que pour faire cet investissement, vous allez vous mettre d'accord entre l'entrepreneur et le banquier ou l'investisseur sur la valeur de l'entreprise, avec un mode de calcul. Et si on s'en tient à ce qui se fait dans 99% des cas, plus vous allez travailler, mieux vous allez travailler, plus vous allez donner de valeur à votre entreprise. Donc plus les parts de votre associé vont valoir cher, puisqu'en fait vous avez super bien travaillé. Ce qui veut dire que lui, comme son produit, c'est pas des boulons comme vous, votre usine, mais c'est de l'argent, lui, il va avoir besoin de récupérer sa mise, son argent, pour faire des profits. Comme vous, vous en faites avec vos boulons. Le problème, c'est que son niveau de profit est proportionnel à votre talent. Et donc, plus et mieux vous allez travailler, plus ses parts vont valoir cher, et donc plus vous serez en difficulté pour les lui racheter, puisque vous avez donné trop de valeur à votre entreprise, vous êtes trop bon. Donc en fait, c'est pas vous qui allez pouvoir acheter ses parts. Donc ça veut dire qu'il vous aura aidé pendant 5 ans, parce que c'est à peu près ça le cycle, 5 ou 7 ans. Et au bout de 5 ou 7 ans, lui, il va avoir besoin de vendre ses boulons, l'argent qu'il a mis chez vous. Et du coup, il va devoir trouver un acheteur. Sauf que cet acheteur, ça ne pourra pas être vous, parce que vous avez été trop bon. Trop bon, un peu trop con. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est pas vous le vendeur des parts, c'est lui. Et donc lui, si vous ne pouvez pas l'acheter, il va choisir quelqu'un d'autre. Et donc, vous allez vous marier. Donc, votre, c'est comme si c'était votre meuf. C'est votre meuf qui se barre et qui dit, mais t'inquiète pas, je te présente Stéphanie. Elle va me remplacer, ça va très bien se passer. Ça va durer 5 ans. Bon, bah, c'est intolérable à titre personnel. Bah, c'est ce qui se passe dans une boîte. Ça veut dire que votre mari, votre femme, votre associé, celui avec qui pendant 5 ans vous allez traverser monts et marées, c'est pas vraiment vous qui allez le choisir, parce que c'est pas vous le vendeur. Et donc pour moi, le problème du financement des startups, qu'elles soient industrielles ou pas, c'est qu'il faut absolument cesser de les court-termiser en compensant les conséquences fâcheuses, court-termistes, du mode de levée de fonds traditionnel. Les financiers auront toujours besoin de sortir à 5 ans. C'est pas ça le sujet. Le sujet de fond, le problème qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, et c'est une croyance, donc un investisseur, on croit que c'est un gestionnaire. C'est pas un gestionnaire, c'est un parieur. Au fond, lui, c'est un parieur. Et donc, lui, il dit, bah moi, j'ai une matière première, c'est l'argent qu'on me confie. C'est pas son argent, souvent. On lui prête de l'argent, c'est l'argent qu'on met sur les livrets, les machins, etc. On lui prête de l'argent. Cet argent, il va le miser le mieux possible pour le rendre avec le plus de bénéfices possible à ses clients. Comme ça, c'est comme ça qu'on lui en prête le plus. Et prendre sa com et du coup, gagner de l'argent grâce à ça. Pas de problème. Lui, son produit, c'est l'argent. Nous, on va dire, c'est le jean. Il a un coût de matière première. C'est l'argent qu'on lui confie. Il va le rendre avec un taux d'intérêt. Donc, ça va lui coûter l'argent qu'on lui donne. On lui donne 100, il va falloir qu'il rende 110. Donc, lui, pour gagner sa vie, il faut qu'il gagne 120. Pour gagner 10 et rendre des 110 dont il y a besoin. Donc, sur la matière première, nous, c'est le coton, lui, c'est l'argent qu'on lui confie. Ensuite, il a des charges, ses salaires, ses loyers, etc., comme nous, chez 1083. Il a aussi une ambition de rentabilité. Pas de problème. 5, 10, 20%, ce qu'il veut. Il la calcule, il la définit, c'est ses objectifs. Comme nous, nous, on a quasiment, sauf une année en 10 ans, été rentable. On est toujours rentable. Ben, on a des objectifs de rentabilité. Parce que, comme tu l'as dit, on doit bien gérer les gens, l'environnement et l'argent. Sinon, ça ne dure pas. Et il y a un quatrième point qui est important et qu'on partage, c'est le risque. Lui, il va mettre de l'argent chez nous, au risque qu'on fasse de la merde et qu'on le perde. Lui, son risque est dans ses participations, donc les entreprises dans lesquelles il investit, et nous, nos risques, il est dans les stocks. Si on produit un jean rose et qu'il ne se vend pas, ben en fait, nos jeans qui ont coûté 50€ à fabriquer, on va les vendre 10€, ils ne vendront toujours pas. Et peut-être il faudra les mettre à la poubelle. C'est une caricature, mais... Donc en fait, finalement, on est confronté au même réel. Un coût de matière première, des charges, une rentabilité que l'on vise et un risque. Et il revient à chaque professionnel de gérer son risque. Nous, il est donc dans notre stock. On ne va pas faire des jeans roses si on sait que ça ne se vend pas. Et lui, à lui de bien gérer son risque en misant sur les bonnes sociétés. Et ce risque, il se calcule. Nous, en bon professionnel que l'on est, on calcule le risque ou on estime le risque, mais c'est notre talent que de bien gérer notre risque. Un assureur, il va assurer les locaux de Paris Dauphine en calculant le risque d'un tremblement de terre. Tout le monde calcule du risque. Et donc, ça veut dire que si on couvre son coût de matière première, ses charges, sa rentabilité et son taux de risque, ben en fait, on respecte à 100% son business model. Ça veut dire qu'il y a forcément un moment donné où le niveau de rémunération doit suffire à sa satisfaction. Sauf que les fonds d'investissement, ils disent bah « En fait, nous, on prend des risques avec l'entrepreneur, donc en fait, on a les mêmes risques, donc on a les mêmes profits. » Sauf que non, ils n'ont pas les mêmes risques, parce qu'eux, ils ont plusieurs participations. Donc tout le risque n'est pas dans une société, il est dans plein de sociétés différentes. Donc c'est complètement faux de symétriser le risque de l'entrepreneur et le risque de l'investisseur. Donc moi, j'ai juste dit à mes investisseurs, c'est faux, votre calcul. Je comprends bien que vous avez envie de gagner le plus possible avec moi, mais dans la vraie vie, moi, je ne me dis pas, ah, là, j'ai un client qui rentre, il gagne 10 000 euros par mois, qu'est-ce que je suis con? Au lieu de lui vendre le jean 109 euros, j'aurais dû lui vendre 500 euros. On ne se dit pas ça dans la vraie vie. Eh bien, un investisseur, parce que c'est un parieur, en fait, au fond de lui, sa culture, c'est... Il va ressentir que c'est injuste. Si vous faites x 100 et que lui, il n'a que x 10, il va se sentir frustré. Mais parce qu'en fait, sa croyance à lui lui fait croire qu'en fait, il a le même mérite que vous. Mais pas du tout. Donc en fait, moi, j'ai expliqué ça à mes investisseurs qui voulaient en plus investir dans l'éthique. Je leur ai dit, bah, les gars, si vous voulez investir dans l'éthique, soyez un peu éthique. Et là, votre modèle, il n'est pas cohérent en fait. Alors, pour 50 fonds qui voulaient investir chez nous, 49 ont dit « bah oui, c'est vrai ». Donc, la démonstration était imparable. Par contre, 46 d'entre eux ont dit « ben, vous avez raison, mais nous, on a vu le chef, c'est pas possible ». Oh, ben, merci, au revoir, pas de problème. En fait, les investisseurs verts ou éthiques, tant qu'ils ne mettront pas en place de système de limites, de cap, qui respectent à 100% leur business model, encore une fois, c'est pas l'idée de leur faire gagner moins d'argent. C'est juste de cesser de les faire parier et de les mettre sur un niveau de rationalité qui est le même que l'entreprise dans laquelle ils participent. Et donc, y en a 3 qui ont accepté, qui vont gagner de l'argent grâce à nous, parce que du coup, on est rentable, on se développe. Et donc, grâce au cap, grâce à l'audace qu'ils ont eue de dépasser leurs croyances et d'accepter le cap, eh bien, ils auront gagné de l'argent que les autres qui ont été bloqués par leurs propres croyances ne vont pas gagner. Et donc, voilà pourquoi je trouve que sur les levées de fonds, c'est super important de comprendre quand on crée une boîte, que quand on lève des fonds, en fait, on met le doigt dans un système court-termiste, puisqu'au bout de 5 ans, son compagnon, sa compagne, son marié, son associé, va partir et va être remplacé. Si vous n'êtes pas en capacité de choisir la personne qui le remplace, alors vous prenez le risque d'être marié à quelqu'un qui ne partage pas les mêmes objectifs que vous et qui va vous sortir de la vision long terme, parce qu'en fait, votre rythme va être, votre société va être rythmée par ces changements court terme. Et donc, c'est comme si vous pilotez votre véhicule avec une vue à 10 mètres au lieu d'avoir une vue à 100 mètres. Ben, oui, ça marche, hein, mais on prend plus de risques. Et l'industrie française et l'économie française manquent terriblement de ce temps long, comptent énormément les Allemands, parce qu'ils ont plusieurs choses. Déjà, une culture industrielle plus forte, des PME familiales qui se renforcent au fil des ans, un dispositif de fondation actionnaire qui permet d'avoir une partie de l'actionnariat qui n'a pas d'intérêt lucratif, mais qui a un fort pouvoir de décision et qui permet de garder le temps long dans l'entreprise. Tout ça, ça n'existe pas vraiment en France et ça nous manque.
Alors, le temps long dans l'entreprise et les financiers, effectivement, c'est un sujet, mais on a aussi parlé de la notion du temps long pour les consommateurs, c'est aussi important. Vous avez parlé de la culture, par exemple, de la cuisine avec Top Chef, etc. Comment repopulariser le Made in France et faire en sorte que tout le monde comprenne ce bon sens économique d'acheter français? Je veux dire, moi, personnellement, je mets beaucoup en avant ça, et souvent, on me regarde un peu comme un ovni, en disant, oui, t'es un peu spécial de vouloir acheter français et pousser ça.
En faisant de la mode. Pendant 10 ans, on a cherché à reconstruire une filière, on a réussi, mais on ne fait pas encore de la mode. Le deuxième chapitre de 1083, c'est de faire de la mode pour donner envie, en fait. Pour que, du coup, ce soit désirable, pour que ce soit cool.
C'est aussi simple que ça.
Dans notre métier à nous. Après, un vigneron en faisant du bon vin.
Bah, j'espère que le grand public va comprendre cette mode.
À nous de faire des jolies fesses aussi. Hein, bon, les fesses, c'est une responsabilité partagée. À vous aussi de
faire ce qu'il faut. C'est vrai, c'est vrai. Pour revenir à ton parcours et en finir là-dessus, tu as changé de métier, du coup, comme tu nous as dit. Qu'est-ce qu'on ressent quand on prend des risques comme ça, qu'on change de métier, même de filière, dans une filière qu'on ne connaissait pas du tout? Est-ce qu'il y a un rôle aussi de la famille? Tu as dit que tu étais avec tes grands-parents pour te soutenir dans ces moments-là.
Quand j'ai démarré, c'était il y a 16 ans, j'avais pas d'enfants, je vivais chez ma grand-mère. Par choix, j'avais quitté mon appart à Grenoble pour vivre chez ma grand-mère. Oui, ça m'a offert du confort, un confort qui m'a aussi ralenti parce que du coup, il y a plein de choses que j'aurais appris plus vite si j'étais confronté au réel un peu plus vite. Et là, comme j'étais nourri, logé, blanchi, je ne me suis pas affolé, quoi. Donc c'est bien, il fallait des plus et des moins, comme dans tout. Et à côté de ça, moi, j'aime bien me dire et ressentir que je n'ai pas de métier. Parce qu'en fait, le fait de me dire que je n'ai pas de métier, ça me nettoie de toutes mes propres croyances, mes propres certitudes. En fait, ça me rafraîchit tout le temps. Je n'ai pas envie d'être entrepreneur. Je n'ai pas envie d'être... ou alors entrepreneur au sens très large, à entreprendre des choses, oui. Mais je n'ai pas envie d'être marketeur, je n'ai pas envie d'être industriel. J'ai envie d'être ouvert à tout et donc de ne pas avoir de métier. Et quand on entreprend, même pas quand on crée une boîte, mais quand on a de l'ambition pour sa vie, juste faire de chaque seconde un truc cool, le plus cool possible, et bien en fait, on essaye des choses. Et à force d'essayer, on trouve ça cool. On est tous à marcher debout parce que bébé, on a eu l'audace de passer de 4 pattes à debout, de prendre les risques de tomber. Et c'est grâce à l'acceptation du risque et à des chutes et à des échecs que du coup, on est capable d'oser plus et donc de faire plus. Donc le risque, en fait, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'on vit plus malheureux sans risque et sans... Enfin, le statisme déprime. Et par contre, le mouvement stimule. Mais le mouvement fait prendre des risques. Et au fur et à mesure qu'on grandit, ben, on marche de plus en plus vite, voire on court, voire on prend le vélo, puis après on enlève deux roues, puis après on roule à 50 km/h, puis après on fait des 170. Bon, tout ça, on ne peut pas faire une descente à 70 km/h à 3 ans. Mais à 20 ans, on le fait, et puis après on prend de l'expérience, on se dit, bon, on va arrêter les conneries à 25 ans, et puis voilà. On mature. Comme la société est immature là, ben, elle doit gagner en maturité. Et moi, je pense que la question du risque, appréhender le risque, c'est une vraie compétence qu'on n'apprend pas. Mais on le voit ensuite rapidement, même on le voit en tant qu'étudiant. Y a des gens qui peuvent se noyer dans un verre d'eau. Travailler ça et finalement s'en extraire, c'est une énorme compétence. Parce que demain, s'il y a un problème, non pas A qui arrive, mais A+, et qu'on ne s'est pas noyé dans un verre d'eau au problème A, ben, on sera plus armé pour le problème B. Et ça va faire quelqu'un de nous de plus confiant, plus fort, moins fragile. Je ne sais pas si ça, vous connaissez la notion d'antifragilité ?
Oui.
Non, pas spécialement.
L'antifragilité, donc en fait, quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui s'affaiblit quand il rencontre des aléas. Qu'est-ce que je peux prendre ?
Une tasse qui tombe, elle va se casser.
Et donc, le choc va la fragiliser, va la détruire. Mmh. On oppose souvent la fragilité, la robustesse ou la résilience. La robustesse, c'est ma bouteille d'eau. Je vais la faire tomber, il ne va rien lui arriver parce qu'elle est en plastique. Et du coup, elle va être indifférente au choc. Ça, c'est la robustesse. La résilience, c'est une bouteille qui va être en plastique, mais un peu mou. Elle va tomber, elle va se déformer un peu, hop, je vais la retoucher et elle va se remettre d'aplomb. Donc la résilience, elle subit un peu les chocs, les aléas, mais elle remonte la pente. La robustesse s'en fout de l'aléa. L'antifragilité, et donc tout ça, la robustesse et la résilience, c'est pas l'inverse de s'affaiblir des chocs, puisque l'inverse de s'affaiblir des chocs, c'est se renforcer des chocs. Mmh. Et donc c'est ça qui s'appelle l'antifragilité. Et en fait, la vie, l'expérience, c'est se renforcer des chocs. Et donc moi j'aime beaucoup, depuis que j'ai pris conscience de ce mot-là, j'aime beaucoup cette notion d'antifragilité, parce qu'en fait, plus tu acceptes le risque des aléas, plus tu te donnes l'opportunité d'apprendre plus que si tu crains l'aléa. Et donc moi, je ne veux pas craindre les aléas, je ne veux pas craindre le risque. Et plus j'appréhende le risque, petit à petit, plus je m'épargne d'être cassé par un des risques auxquels je ne me serais pas pré-éprouvé. C'est le principe des vaccins. Un vaccin, c'est un morceau de virus qu'on vous met dedans. Votre corps réagit et se tient prêt à recevoir le vrai virus, pas un morceau de virus. Et bien en fait, l'antifragilité, c'est un vaccin pour la vie. Et pour ça, ben, faut accepter le risque. Et la vague, faut pas la craindre, faut pas baisser la tête, faut se servir des petites vagues pour apprendre à surfer, pour que quand il y a la grande vague, et ben, ce soit même cool, quoi. Donc c'est comme ça que moi je vis le risque et le métier.
Et ben, très bien, ben, acceptons le risque, osons plus, osons acheter français, acheter 1083, parce que ça a un impact très positif sur l'économie française, sur l'écologie et aussi même socialement. On a vu tout ça pendant ce podcast avec Thomas Ruyès, fondateur de 1083. Donc merci beaucoup Thomas et à la prochaine.
Merci à vous, à plus.
Merci.
L'innovation. De l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation. On a beaucoup d'innovation.
L'innovation.
L'innovation radicale.